Nous sommes en guerre.
Brothers and sisters, we are one country. We are one people.
Pour cette cause, je suis tout comme vous prêt à mourir. Mais écoutez, mes amis, il n'existe aucune cause au monde pour laquelle je me sens prêt à tuer.
Voici que Christ va dire la chose suivante. Remets ton épée à sa place, car quiconque prendra l'épée périra par l'épée.
Le Mouvement pour la paix, une émission pacifique et conciliante proposée par le comité Pax Rona.
Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui avec le comité Pax Rona du Mouvement pour la paix qui sont avec nous aujourd'hui pour aborder un sujet qui est quand même très délicat, c'est le sujet de la guerre actuelle entre la Palestine et Israël. C'est un sujet qui provoque beaucoup de discussions, même de divisions dans notre société française. Nous sommes ici pour essayer de trouver des solutions pacifistes et j'aimerais peut-être déjà un premier rappel historique.
Alors, rappel historique, peut-être pas, mais comme on l'avait fait dans une émission précédente par rapport à l'Ukraine et par rapport aux décisions de l'ONU, c'est vrai qu'il faut se retourner un peu vers le droit international pour essayer de voir comment se positionnent les éléments. Alors, il n'y a pas de définition juridique du terrorisme. Ça, c'est un premier point hein, dans le droit international humanitaire. Donc ils considèrent que des actes terroristes sont des actions menées dans le but de semer la terreur lorsqu'elles sont commises en temps de paix. Après se posent d'autres questions. Est-ce que au moment où les actes ont été commis, c'était la guerre ou est-ce que c'était l'occupation? Voilà, il y a donc toute une série de définitions qui sont données par l'ONU sur ce sujet. Et c'est pareil, dans une déclaration du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance à l'époque hein, des pays et des peuples coloniaux, l'ONU disait « Reconnaissant le désir passionné de liberté de tous les peuples indépendants et le rôle décisif de ces peuples dans leur accession à l'indépendance, à cette fin, il sera mis fin à toute action armée et à toute mesure de régression, de quelque sorte qu'elle soit dirigée contre les peuples dépendants. » Il n'est pas mis fin à la régression du peuple palestinien, on peut se dire. Donc on peut dire aussi que sa lutte est juste. Voilà.
Alors, évidemment, on voit bien qu'il y a des arguments d'un côté et de l'autre, mais peut-être quand même rappeler ces attaques du Hamas en 2023, qui sont le début de notre problème aujourd'hui.
Bah, ce sont des attaques... Enfin, on a vu les images à la télé pour tout le monde. C'est vrai que ce sont des attaques violentes, affreuses. Et puis aujourd'hui, il reste encore quand même des otages suite à cette attaque. Quelques-uns ont été libérés, pas beaucoup, je pense. Il en reste beaucoup. On ne sait pas trop où ils sont. Et on ne sait pas non plus ce que du côté israélien, quelles sont leurs intentions. Est-ce qu'ils veulent sacrifier des otages, pas les sacrifier, les récupérer. Donc on voit que la situation est terrible. Au mouvement de la paix, on a déclaré hein, que le Hamas avait fait une attaque terroriste au moment du 7 octobre.
Alors, attaque terroriste du Hamas, réplique d'Israël, voulant protéger ses lignes, et aujourd'hui, une situation humanitaire palestinienne catastrophique.
Oui, absolument, hein. Alors, je sais pas si on peut donner quelques chiffres hein, sur la bande de Gaza. Ça date entre octobre 2023 et janvier 2024, les chiffres. Hein. Donc, il considérait qu'il y avait un peu plus de 26 000 Gazaouis qui étaient décédés, dont 22 000 femmes et enfants. Donc, une des choses qu'il a dites, c'est que ce sont surtout les combattants du Hamas qui sont visés. Et là, on s'aperçoit que quand même, ce n'est pas tout à fait la vérité. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu plus de 130 journalistes qui ont été tués. Palestiniens, oui, côté palestinien, hein, qui ont été tués. Les Nations Unies ont payé un lourd tribut également, hein, puisqu'il y a eu plus d'une centaine d'employés des Nations Unies qui ont été tués. Voilà un peu pour les chiffres sur la bande de Gaza. Et puis on voit les images à la télé où effectivement tout est détruit, tout est ravagé, que ce soit les simples maisons ou les hôpitaux. Donc la situation est dramatique.
Voilà, donc effectivement, un gros problème aujourd'hui avec la Palestine qui est sous les bombes. Une situation qui, d'après beaucoup de commentateurs, est à haut risque au niveau de la mondialisation, puisqu'il y a peut-être un risque de mondialisation de cette guerre avec une opposition Moyen-Orient-Occident ou même une guerre de religion entre juifs, chrétiens et islam. Comment est-ce que le mouvement de la paix peut s'opposer à cette escalade et rappeler au bon sens et rappeler aux négociations et surtout essayer de protéger ces populations, notamment palestiniennes?
Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les chiffres que donnait tout à l'heure Loïc. On est à 40 000 morts. On n'est pas à 25 000. Aujourd'hui, en juin, on est à 40 000 morts tout de même. Ce n'est pas rien. Il n'y a plus une université debout, il n'y a plus une école debout. C'est rasé. Enfin, moi, j'ai des informations deux fois par jour de Gaza et même de Cisjordanie. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de réseau d'eau potable. J'ai un ami que vous connaissez parce qu'il est connu en France, c'est Ziad Medour. Il nous a raconté qu'il mangeait de l'herbe pour survivre. Donc, on est dans une situation tout à fait catastrophique.
Alors justement, alors on reprend cette question, parce qu'on voit bien, c'est comme dans toutes les guerres, il faut arrêter cette escalade. Comment est-ce qu'on revient à plus de bon sens? Comment est-ce qu'on revient à appeler les deux parties à la table des négociations? Comment est-ce qu'on libère les otages?
Dans ce cadre-là, moi je veux tirer vraiment de toutes les éloges qu'on peut faire à l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, que l'on connaît par ailleurs, puisque Pierre Stamboul, Sarakat sont venus au comité Pax Rona, on les connaît bien, ils ont fait les flottilles pour Gaza. L'UJFP à Gaza fait des choses tout à fait extraordinaires. Aujourd'hui, si beaucoup d'enfants palestiniens mangent, c'est grâce à l'UJFP. C'est grâce à l'UJFP si, si les femmes dansent. Mais je vous assure que moi, je reçois des images extraordinaires. Ils ont organisé une tente solidaire qui rassemble des femmes qui ont perdu des enfants, des maris, enfin bon, bref, la famille, qui rassemble des enfants. Ils refont l'école. Je vous assure, c'est poignant. Et ils disent, alors de Ziad aussi, on a des nouvelles, alors il a maigri, ils maigrissent tous, évidemment, il y a des maladies abominables, ils nous disent « résister, c'est vivre ».
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi derrière cette guerre des enjeux économiques qui, au-delà de l'affrontement entre deux peuples, expliquent beaucoup de choses? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça?
Écoutez, moi, je m'interroge. Je m'interroge beaucoup et je pense qu'on devrait être nombreux à s'interroger sur le Hamas en particulier. Évidemment, le Hamas a eu une action terroriste le 7 octobre. Évidemment. Mais enfin, d'où vient le Hamas? Qui a poussé le Hamas? Qui a financé le Hamas? Il y a quelque chose, moi, qui... Je n'ai pas de réponse. Hein. Je soulève la question, je n'ai pas de réponse. Mais enfin, je suis quand même très, très étonnée. Comment se fait-il? Comment est-ce possible que le 7 octobre ait pu avoir lieu à si peu de distance d'Israël, qui est surarmé, qui a une puissance d'observation des drones et tout ce qui s'en suit pour voir ce qui se passe? Et puis, ils n'ont pas vu ça. Moi, je vous dis franchement, je m'interroge.
On se pose beaucoup de questions, c'est vrai. Hein. C'est vraiment comment une telle attaque a pu avoir lieu. Comment, même du côté palestinien, on n'a pas pu empêcher cela, parce qu'évidemment, ça allait provoquer la guerre. C'était une évidence. Mais on se pose aussi la question du rôle de l'Occident, de nos pays, des États-Unis. Est-ce que vraiment l'objectif est d'arrêter cette guerre?
Bon, c'est difficile à dire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que par exemple, si les États-Unis arrêtaient de fournir en armes Israël, Israël aurait des problèmes pour continuer sa guerre. Donc voilà, il y a un des leviers qui pourrait être activé, qui n'est pas activé. Bon, il y en a certainement d'autres aussi, hein, du côté du Hamas. Ils sont certainement armés, ils ont des munitions, ils ont des armes. On peut se poser la question d'où ça vient. Voilà. Mais c'est vrai que là aussi, comme le conflit en Ukraine, tant qu'on ne sera pas tous autour, enfin, tous autour d'une table de négociation avec des propositions comme deux États, par exemple, hein, comme certains le défendent, on va continuer la guerre. Et ce qui est inquiétant ces jours-ci, c'est qu'il y a visiblement une volonté d'exporter le conflit au Liban. Donc là, il y a encore des raisons de s'inquiéter, malheureusement, et de penser qu'il y a un risque majeur d'explosion au niveau de la région tout entière, ce qui serait dramatique.
Alors, à un moment donné, quelqu'un d'entre vous disait « C'est aux Palestiniens et aux Israéliens de décider ensemble de leur avenir. » Mais vous, au Mouvement de la Paix, vous proposez aussi, vous tenez beaucoup au rôle de l'ONU.
On supposait jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années, tant qu'il n'y avait pas de problème sérieux, on pensait que l'ONU pouvait régler certaines choses. On s'aperçoit que l'ONU n'a aucun pouvoir, n'a aucun moyen de coercition.
Oui, parce que c'est le grand absent dans cette guerre, c'est l'ONU quand même.
Oui.
On a l'impression que même l'ONU ne dit pas sur quoi sommes basés, parce que tout ce qu'on vient de dire, les conflits, j'en reviens toujours au même point, il faudrait commencer par le commencement. Sur quoi s'appuient les conflits? Sur notre tempérament d'humain, de refuser la différence, le pluralisme.
Donc c'est vraiment un travail auprès des enfants qu'il faudrait faire. En ayant conscience de ça, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire en tout cas? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument éviter pour éviter cette escalade toujours de la violence?
Être ignorant. Être ignorant, oui. Ignorer les choses. Être tourné vers soi seulement. Remplir son caddie et ne pas réfléchir.
La politique de l'autruche.
Ah, ben bien sûr. C'est tellement plus facile.
Donc on est concerné, c'est ça que vous voulez dire?
Ah oui.
On est concerné, mais on veut pas. On est concerné par la paix, hein. On est bien d'accord. Hein. On n'est pas à vouloir prendre parti. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individuellement, vous, Mouvement de la Paix? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ici, au niveau local?
Vous voyez bien, par exemple, sur la Palestine, par exemple, on a constitué en Avignon un collectif et on manifeste. On manifeste. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais on manifeste pour la paix, pour un cessez-le-feu, pour des négociations, pour refus de l'envoi des armes à Israël. Mais alors, il y a quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Vous savez quand même qu'il existe... comment ça s'appelle bon, Palestine Solidarité. Comment ça s'appelle? BDS. Boycott, investissement... Comment? Désinvestissement sanction. BDS. C'est une association une association d'ici, hein, française, qui incite les gens à prendre conscience que beaucoup d'entreprises travaillent pour développer le commerce en Israël et vendre, par exemple, moi j'ai vu ça chez mon Leclerc, ils vendent par exemple des avocats qui viennent d'Israël, mais qui ont été cultivés sur les terres palestiniennes. Donc BDS s'oppose à ça. Et donc, entre autres, cette fameuse association BDS nous fait savoir quelle association, quelle entreprise, quelle banque travaille avec Israël au désavantage des Palestiniens. Alors, pendant ces manifestations en Avignon, les manifestants s'arrêtent souvent devant Carrefour parce que Carrefour fait partie de ces entreprises qui vendent et qui profitent de denrées qui viennent d'Israël, mais ces denrées ont été produites sur les terres palestiniennes, c'est-à-dire qu'elles ont été faites au détriment des Palestiniens.
Et c'est très intéressant parce que finalement, là, ce que Anne-Marie vous nous dites, c'est que finalement, par nos actes de consommation, et on peut élargir ça au-delà du conflit Israël-Palestine, nos actes de consommation peuvent participer d'une manière positive ou négative, hein, à un vol, une escalade, voilà. Donc il faut être attentif aussi à la façon dont on consomme.
C'est la raison pour laquelle, lorsque vous posez tout à l'heure la question « Que pouvons-nous faire, nous, individuellement ?», eh bien, c'est réfléchir, être attentif et s'informer. Voilà.
Je voulais juste revenir sur l'ONU pour préciser, parce que tout à l'heure, on disait que l'ONU, effectivement, était pas, avait pas forcément les moyens d'agir concrètement. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la Cour internationale de justice va peut-être plus loin suite à la plainte de l'Afrique du Sud. Il y a des mandats qui sont envoyés vers Netanyahou et vers le Hamas, et donc qui suivent leur cours. Donc on a l'impression que cette juridiction peut aller plus loin pour le moment que l'ONU, quoi, en fait. Alors, on parlait de résistance et comment résister. Alors nous, au Mouvement de la Paix, on a un moyen. On a une petite colombe qu'on peut fixer sur son t-shirt, sur son pull, sur sa veste, peu importe. Et en portant cette colombe, ben, déjà, c'est un geste pour dire on résiste. Voilà.
Voilà, tout simplement rappeler que chacun d'entre nous, on a une part de responsabilité. Je reviens vraiment sur cette idée d'Anne-Marie que ne serait-ce que par notre façon dont on va faire nos courses, on peut aussi influer un peu du côté de la paix, du côté du développement économique, du côté de le plus de solidarité dans le monde. C'est une prise de conscience personnelle. Je vous remercie beaucoup d'être venu, le comité Pax Rona, d'avoir répondu présent à cette invitation. On se retrouve bientôt pour d'autres émissions.
C'était le Mouvement pour la Paix, une émission proposée par le comité Pax Rona.